Donc on se retrouve pour ce deuxième message autour de cette thématique sur la victoire dans ce monde, hein, où il est dit Jésus nous demande de croire dans le fait qu'il a vaincu le monde et donc il nous encourage à vivre la paix et de vivre dans le repos. Et dans ce verset de Jean 16, 33, il est dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. On peut penser, on parlait de Lot et d'Abraham la dernière fois, et Lot, à un moment donné, alors il avait sa nature pécheresse, évidemment, les tentations, etc., mais il se morfondait dans son âme, il était découragé, et peut-être qu'il avait ce sentiment d'avoir perdu la partie, quelque part, ou que Dieu ne l'avait pas gardé comme il aurait fallu qu'il le garde. Et Abraham, lui, avait aussi ses propres difficultés, alors qu'il marchait avec Dieu, il avait aussi ses combats à vivre, et lui aussi a dû parfois peut-être être inquiet. Mais la vie chrétienne consiste à prendre courage en Dieu. Et c'est extraordinaire de voir que Lot a été gardé par la piété d'Abraham, et on voit que Abraham et Lot faisaient partie d'un même peuple, un peuple sauvé, de croyants qui ont quitté l'existence naturelle, je vais parler de la vie immortelle, pour rentrer dans la vie éternelle. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, qui que nous soyons en tant que chrétiens, que l'on soit mûr ou pas, charnel ou pas, mais en tous les cas, Dieu a un plan pour notre vie, et il veut nous encourager, il veut que nous retenions le fait que la paix nous est proposée. Et c'est intéressant parce que quand il dit, là, dans ce verset de Jean 16, 33, prenez courage, en français, on devrait plutôt dire « soyez courageux », et en grec, c'est « tarseo », et nous retrouvons cette expression plusieurs fois dans les Écritures, surtout dans la bouche de Jésus. En Matthieu 9, 2, par exemple, il est dit « voici, on lui amenait un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ce verset est extraordinaire en réalité parce que Jésus place la relation avec cet homme à un autre niveau. Il se situe à un autre niveau. Les gens viennent, parce que le paralytique ne peut pas se déplacer, donc son entourage l'apporte au pied de Jésus. Et cet homme attend une guérison, qu'on peut comprendre. Et il va être guéri. Mais Jésus lui dit pas « prends courage, tu vas marcher ». Prends courage, tu vas être valide. Il dit, prends courage, car tes péchés sont pardonnés. Et donc, c'est, encore une fois, c'est la vie éternelle qui nous procure la paix. Cet homme, il pouvait être guéri, et il pouvait remercier le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il serait devenu ensuite avec ses péchés? Il aurait été en enfer. Et donc, que l'on soit paralysé ou valide, dans les deux cas, on n'a pas la paix du cœur. Et c'est la vie éternelle qui peut nous donner la paix du cœur. Et donc, Jésus lui dit, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Donc, de la même façon, nous sommes infirme dans le sens où nous ne connaissons pas tout, nous avons nos faiblesses, on a encore la nature pécheresse, les démons sont plus forts que nous, le diable est plus fort que nous, mais en nous-mêmes, dans le monde, donc nous sommes perdants. Mais on prend courage parce que Jésus a vaincu le monde. Et donc c'est en lui que nous allons expérimenter la quiétude, la piété l'assurance que le Saint-Esprit nous propose. En Matthieu 9, 28, il est dit aussi, Jésus se retourna et dit en la voyant, donc il parle à une femme, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Là, c'est intéressant aussi parce que on voit que donc elle va être guérie physiquement, mais Jésus va distiller quelque chose de spirituel. Il va lui dire, c'est parce que dans les cieux, il y a ta confiance qui a été manifestée envers moi. Et c'est à ce niveau-là que la victoire a été obtenue. C'est pas parce que Jésus était puissant et qu'elle s'est adressée à la bonne personne comme on s'adresse à un médecin. Il n'y avait pas le côté uniquement naturel des choses. C'est aussi le côté spirituel, c'est-à-dire qu'elle a cru qu'il était le Messie, elle a cru qu'il était sauveur du monde, elle a cru qu'il était envoyé du Père. Et c'est cette foi-là, au-dessus, qui a provoqué une guérison sur la terre. C'est pour ça, d'ailleurs, que je disais dans le premier message que la Bible nous encourage à prier, on peut intercéder pour nos besoins, etc. Nous sommes dans le monde encore, mais ça ne doit jamais prendre la première place dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. C'est toujours le côté spirituel qui doit être mise en avant. Et c'est à ce niveau-là qu'on aura la paix, c'est à ce niveau-là qu'on aura la victoire, et c'est à ce niveau-là que ça engendrera ensuite, Dieu voulant, des bénédictions terrestres durant l'existence que nous avons à vivre ici-bas. En Matthieu 14, versets 26 et 27, il est écrit « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, donc ils n'avaient pas la paix, et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit « Rassurez-vous », donc c'est traduit ainsi, mais c'est le même mot, hein, c'est « Prenez courage » ou « Soyez courageux »,« Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Et là encore, nous avons un principe très intéressant. Alors eux, ils avaient vu un fantôme, mais à la limite, ça aurait pu être n'importe quoi ou n'importe qui. Bien entendu, la peur ne serait pas partie. Mais qu'est-ce qui pouvait faire que la peur se dissipe ou disparaisse? C'était l'assurance que c'était Jésus qui était auprès d'eux. En d'autres termes, dès qu'on est en communion avec la bonne personne, c'est-à-dire avec Dieu, au travers de par Jésus-Christ, on n'a plus à craindre. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, ce sont ces vérités-là que nous sommes amenés à expérimenter. Moi, que ça soit dans ma vie, mais je le vois aussi au sein de notre assemblée, et puis je le vois aussi par ailleurs, on a des chrétiens qui vont à des conférences, qui lisent la Bible, qui font l'Institut biblique peut-être, qui sont remplis de connaissances, et cinq minutes après, je sais pas, le pneu de la voiture est crevé, ils apprennent une mauvaise nouvelle, c'est comme si tout ce qu'ils avaient entendu a été oublié et ils sont redescendus dans la vie immortelle et non pas dans la vie éternelle. Ce qui fait qu'ils ne profitent pas, ils ne sont pas au bénéfice de la connaissance spirituelle qu'ils ont pu recevoir par ailleurs. Et donc, à partir du moment, et c'est même dans ces détails-là, bien entendu que d'avoir son pneu crevé, c'est jamais au bon moment, parce que un pneu crevé, on s'en aperçoit au moment où on va avoir besoin de la voiture. Donc c'est jamais le bon moment. Mais la vie, je dirais terrestre, la vie naturelle va être perturbée. Peut-être ça peut même avoir de graves conséquences, je n'en sais rien. Mais au-dessus, nous avons cette assurance que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce verset-là qui va nous donner la paix. C'est pas forcément la résolution immédiate du problème. Et donc en permanence, c'est la paix dans la vie éternelle qui nous est offerte. Le fait que nous soyons en Christ. On est dans le monde, mais nous sommes en Christ. Et ce qui fait que, grâce à la doctrine, dans toutes les situations de la vie, il y a dans le monde des difficultés, mais en Christ des solutions. En Christ, la paix de l'âme et peut-être aussi des solutions pratiques pour notre vie. En Marc 10, 49, il est écrit « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire ». Donc, en fait, c'est un aveugle hein, qui crie pour que Jésus s'occupe de lui. Donc, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et là, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qui fait que nous avons repris courage, je dirais, dans l'existence? Peut-être qu'on était peut-être pas désespéré avant de connaître Christ, mais il est vrai que quand on a rencontré Christ, il y a une espérance qui s'est levé dans notre cœur. Il y a eu vraiment une assurance pour l'éternité et donc ça a changé notre existence. On a pris courage. Moi, je sais que je me morfondais pas, enfin, j'avais pas de grands malheurs, mais je me posais la question, pourquoi je suis sur cette terre? Quel est le sens de l'existence? Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est la bonne religion? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que Dieu existe? Je n'étais pas athée, je n'étais pas croyant, j'étais sceptique. C'est-à-dire, tout est possible, mais toutes ces possibilités ne donnent pas de l'assurance. Et donc, à un moment donné, j'ai eu cette assurance parce que le Saint-Esprit m'a convaincu d'avoir rencontré le seul vrai Dieu. Et ce qui fait que ça m'a donné du courage et ça m'a permis d'aller de l'avant dans l'existence et d'aller dans une autre direction. Et lorsque j'étais aveugle, à un moment donné, j'ai pu voir pourquoi. Parce que Jésus m'a appelé. Je ne le savais peut-être pas. Mais nous savons que nous avons tous été appelés. Si Dieu ne nous attire pas à lui, ce n'est pas possible de connaître Dieu. Et donc c'est à la fois l'humilité du croyant qui lui permet de recevoir ce que Dieu lui propose, mais il faut que Dieu lui propose quelque chose. Et là c'est très intéressant parce que ça parle aussi de l'Église, d'une façon indirecte ce verset. Parce que nous voyons là que des gens disent à cet aveugle « Dérange pas le maître, laisse-le tranquille ». Aujourd'hui dans le monde, Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu t'adresses à Dieu? Est-ce qu'il existe? Enfin, voilà. Il y a plein de voix, je dirais, négatives autour des personnes qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui cherchent peut-être la vérité, mais on leur dit, mais non, ça c'est des fables, c'est des histoires. Et puis, il y a l'Église. Et là, elle est personnifiée par les apôtres parce que ils entendent de la part de Jésus, il y a Jésus qui s'arrête et il dit à ses disciples, appelez-le. Donc en fait, il donne un mandat à ses disciples. C'est pas lui qui appelle directement. Ce sont ses disciples qui l'appellent. Et qu'est-ce qu'ils disent? La même phrase que prononce Jésus plusieurs fois, par ailleurs, on a lu les versets, ils disent, prends courage. Et c'est ça le rôle de l'Église. C'est d'annoncer un message qui donne une espérance aux gens, qui donne la paix aux gens. Et on appelle les gens parce que c'est derrière, c'est Jésus-Christ qui les appelle. Et donc, l'Église doit être en cela des envoyés de la paix de Dieu. Et on doit du coup encourager notre entourage à rencontrer cette espérance. Donc il dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Donc la question qu'on peut se poser individuellement, en tant que croyant, en tant que prêtre, sacrificateur devant Dieu, mais aussi en tant qu'Église, est-ce que notre discours et notre mode de vie est synonyme d'encouragement auprès des autres? Est-ce que nous encourageons les perdus, les païens, les non-croyants, les idolâtres? Est-ce que nous les encourageons en leur disant, il y a une autre solution, il y a la vie éternelle qui vous est proposée? Est-ce que dans l'Église, nous avons des paroles d'édification? Est-ce que dans notre maison aussi, nous vivons comme ça? Est-ce que dans notre tête, nous prenons courage? Vous savez, quand on veut encourager quelqu'un, si nous le faisons, c'est parce qu'il y a un besoin. Quand les gens vont bien, on n'a pas besoin de les encourager. Enfin, il est bien de le faire même quand tout va bien, mais vous comprenez, c'est que si Jésus nous dit ça, c'est qu'il peut y avoir des problèmes dans l'existence. Et de la même manière, nous allons encourager les gens qui sont dans le besoin. Et donc la vie chrétienne consiste à servir Dieu en servant les autres et ne pas être démoralisé par les problèmes. Je disais l'autre fois à quelqu'un, parce que parfois le ministère pastoral n'est pas évident, donc on peut comprendre, il y a des pasteurs qui sont découragés, mais à un moment donné, je lui ai expliqué, il y a une phrase moi qui m'avait marqué lorsque j'étais à l'Institut biblique, c'était durant des cours d'été, il y avait un enseignant de Baltimore qui était venu, et qui avait dit une phrase toute simple, elle est évidente quand on l'entend, mais on a tendance à l'oublier, il disait, si vous avez des responsabilités, dans quoi que ce soit, ça peut être une entreprise, ça signifie que vous aurez des problèmes à régler. Parce que s'il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin de responsable. Si dans une usine, tous les ouvriers résolvent les problèmes, ils sont à l'heure, ils sont zélés pour travailler, ils règlent tous les problèmes techniques et puis la production va bien, à la limite, il n'y a pas besoin de responsable au-dessus. Tout tourne. De la même manière, les enfants, pour les parents qui veulent avoir des enfants, ils doivent accepter le fait qu'ils auront à gérer des problèmes. Là, quand il est tout mignon, quand il vient naître, il peut rien faire presque, à part pleurer de temps en temps, peut-être beaucoup pour certains. Bon, bah, c'est facile à gérer, mais après, quand la volonté commence à s'affirmer, et qu'elle s'oppose à celle des parents, il y a des problèmes à gérer. Donc, un pasteur, de la même façon, doit accepter l'idée qu'il va devoir résoudre des problèmes. Et s'il n'accepte pas ça, il va être découragé. Or, Dieu nous dit, prenez courage. Et donc, c'est ça être un disciple, c'est d'encourager les autres aussi. Et c'est pour ça qu'on va être mandaté pour régler les problèmes et proposer la paix. On voit dans Actes 23, 11, le Seigneur qui a dit à Paul, prends courage. Là, c'est intéressant dans le contexte. Il a déjà témoigné devant des dignitaires. Il a été persécuté, bien entendu, mais il va devoir aller à Rome. Et donc, là, il reçoit de la part du Seigneur cette phrase, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, et on sait que ça n'a pas été facile, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Et ça, c'est un point intéressant. Parce que, vous savez, on fonctionne tous dans un système légaliste. Et des fois, on a cette impression que la victoire consiste à vivre des victoires dans le sens où à marcher dans le plan de Dieu, on réussit certaines choses. Donc là, on prend l'exemple de Paul. Il a été à Jérusalem, il a témoigné. Ça a été difficile, il y a eu des combats, mais il a fait le job, comme on dit. Et des fois, quand on fait le job pour Dieu, on se dit, je vais être tranquille maintenant. Donc je suis encouragé parce que j'ai fait plein de choses et inconsciemment, il va pas me demander quelque chose avant longtemps. Et ça, c'est ça le légalisme aussi. C'est de croire que quelque part, tout ce que je fais pour le Seigneur justifie qu'il n'y ait pas de combat spirituel contre ma vie, que je n'ai pas de persécution, etc. On le voit avec la vie des apôtres, ça a été le contraire. Plus ils servaient Dieu, plus il y avait d'opposition. Et donc, vivre dans la grâce, ça consiste à la recevoir, mais ça consiste aussi à la vivre. C'est-à-dire qu'on va faire plein de choses pour Dieu, mais on va pas utiliser ces plein de choses pour exiger quoi que ce soit de Dieu. C'est-à-dire que on a donné par grâce, on a servi par grâce, et ensuite, on n'est que des serviteurs qui demandons au Seigneur, et c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas, mais moi j'ai fait déjà beaucoup de choses, et demande à lui maintenant. Non, Dieu il connaît exactement nos capacités, nos dons, ce dont nous avons besoin, et il est vrai, par la vue, et peut-être en vérité d'ailleurs, mais en tout cas par la vue, il y a des gens qui ont l'air d'être plus utilisés que d'autres de la part du Seigneur. Il y en a à qui Dieu demande plus de consécration que d'autres. Certains ont plus de tribulations que d'autres. Rappelez-vous l'apôtre Pierre lorsque il a appris qu'il allait être martyr et qu'il pose la question, mais et lui, là, Jean, que va-t-il lui arriver? C'est pas ton problème. Et donc Paul, on voit lui qu'il a toujours une bonne attitude à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il a eu des tribulations et des difficultés à Jérusalem, il a donné un bon témoignage en même temps, mais il faut qu'il prenne courage, c'est-à-dire attention, la course n'est pas terminée, ça va continuer. Et donc ça c'est un point aussi important à avoir en tête, c'est que prendre courage, c'est prendre courage pour les premiers défis que nous avons à traverser, mais prendre courage aussi pour le suivant, et encore le suivant, et encore le suivant. On va avoir besoin d'être encouragé de la part du Seigneur, nous avons besoin de la vie éternelle, nous avons besoin de celui qui a vaincu le monde, en permanence, ça ne s'arrêtera jamais. En permanence, on doit prendre courage. Vous savez, il ne faut pas justifier un certain découragement en disant « mais j'ai tellement fait ». Rappelez-vous Élie, pourquoi il a été découragé à un moment donné? Parce que il a fait tellement de choses. La veille, il a tué 400 prophètes de Baal, le feu du ciel est descendu sur un autel païen. Enfin, voilà, il a vraiment accompli de belles choses et pouvait se dire, ça y est, maintenant, Israël a compris. Non, le lendemain, il apprend que la reine veut le tuer et lui pense être seul à servir Dieu. Il est complètement découragé, il est déprimé. Et le Seigneur, par des moyens très appropriés, va l'encourager. Il va le reprendre, mais il va aussi l'encourager. Il va envoyer un ange pour le nourrir, pour le restaurer physiquement, parce qu'il a beaucoup donné. Quand on est fatigué physiquement, souvent, on n'est pas objectif. Dieu va lui parler. Dieu va lui dire qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et Dieu va lui donner, le chapitre suivant, je crois, un acolyte en la personne d'Élisée. C'est-à-dire que lui qui se sentait seul va maintenant former un disciple, mais en même temps il va avoir un ami, il va avoir un collaborateur avec lui. Et donc, en tant que serviteur de Dieu, ne soyons pas, oublieux sur ce fait qu'on aura toujours besoin d'être encouragé et qu'on ne devra jamais se justifier de ce que nous avons fait pour quelque part dire « Seigneur, maintenant je suis découragé parce que tu me demandes trop ou tu me donnes pas assez ». Donc nous devons à chaque fois nous tourner vers Dieu et encore une fois, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Vous savez, j'ai retrouvé dans mes notes une phrase de Pasteur Stevens qui avait dit un jour « Mon bonheur ne dépend pas de mes circonstances, mais de ma relation avec Dieu ». Et ça, c'est vital. Mon bonheur ne dépend pas de mes circonstances, parce que mes circonstances ne sont pas les vôtres. Donc, mon bonheur ne dépend pas de mes circonstances, mais de ma relation avec Dieu. Et ça ne veut pas dire la vie sera toujours facile, mais quand on parle de bonheur, là, c'est une quiétude, une paix, le fait qu'on nous vivions dans la justification, il n'y a plus de culpabilité, on est en paix avec Dieu. Et ce qui fait que même si on vit des moments difficiles, on discute, on parle, on prie avec notre Dieu de paix. On est l'ami de Dieu, on a un collaborateur et peut-être qu'on vit le brisement, mais il y a un bonheur quand même d'être dans la présence de Dieu, ça n'a pas de prix en réalité. Et pour cela, nous avons besoin donc d'être, je disais, on est dans le monde, mais on n'est pas en le monde. Donc il doit y avoir une forme de distance vis-à-vis des situations, vis-à-vis même de nos circonstances. Et le verset, un des plus connus, mais qui parle bien de ça, c'est Galates 6, au verset 14, il est dit « Pour ce qui me concerne, Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » C'est intéressant parce que là, il se place sous les deux aspects. C'est-à-dire que lui est crucifié, c'est-à-dire que c'est plus sa volonté, mais aussi il voit le monde comme condamné. Il voit le monde comme étant appelé à disparaître. Donc il voit le monde crucifié. C'est-à-dire que ce que nous vivons là est une vapeur. Alors, ça nous paraît long, cette vapeur parfois, quand on est dans la souffrance, et on ne doit pas sous-estimer cette souffrance que nous pouvons traverser. Mais en moi, en tant qu'agent de Dieu, en tant que porte-parole de Dieu, je suis obligé de dire, en cet instant, Dieu savait tout cela, mais Dieu a la paix avec ça. C'est permis par Dieu, et Dieu veut vous encourager, mais la solution, c'est de vraiment vivre votre crucifixion à ce monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus de ce monde. Alors, soyons concrets. Je sais pas, moi, je suis au travail, et il y a une personne... pour une raison ou pour une autre, qui n'aime pas les chrétiens, qui a une religion différente et qui m'assaille, qui me pose problème, etc. Ça peut être un membre de ma famille, hein. Des fois, il y a dans notre famille des gens qui n'acceptent pas notre existence, les choix que nous faisons, la vie que nous avons avec Dieu. Ça nous fait mal, bien entendu. Ça peut nous atteindre. Et il peut y avoir une crainte aussi. Il y a un côté affectif si c'est les membres de famille qui nous attaquent ou nous rejettent. Et évidemment que c'est difficile, mais nous pouvons nous adresser à Dieu et lui demander de nous encourager, de persévérer. Mais il y a autre chose de plus important encore, c'est de se dire, mais le système de ce monde, il est tel qu'il est. La seule chose, c'est que moi, je suis crucifié en ce monde et ce système de ce monde qui m'assaille aujourd'hui va disparaître un jour. C'est que Dieu l'a vaincu. Vous savez, je ne sais pas si... comment je pourrais expliquer ça. Vous donner un exemple. Imaginons que vous ayez dans votre équipe, un joueur qui est tellement au-dessus des autres, mais il n'est pas encore arrivé parce qu'il est bloqué dans un embouteillage, il est en retard. Le match commence parce qu'il doit commencer à l'heure, et vous êtes en train de perdre la partie. Alors, vous faites comme vous pouvez, hein, avec l'équipe, vous évitez la catastrophe, mais... vous êtes en train de perdre le match, mais vous savez que votre joueur là, au-dessus de, va arriver et va rattraper la situation. Eh ben, on vit la difficulté différemment. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre, mais en même temps, on est persuadé d'avoir la victoire parce qu'on a confiance dans le fait que le joueur va arriver au moment où il faudra et que lui va rattraper nos manquements. Eh ben, avec Dieu, évidemment, c'est beaucoup plus sûr que cela, c'est que Dieu, lui, ne sera jamais en retard en réalité. C'est que là, le retard que nous expérimentons, nous pensons que c'est un retard. Mais en réalité, c'est un Dieu victorieux qui contrôle les situations, qui est Dieu, tout simplement, et qui est souverain. Et donc, je dois penser avec lui, parce que la réalité, elle est là. C'est qu'il y a Christ, il y a la vie éternelle, il y a un royaume de Dieu qui est en train de se construire, il y a Dieu qui bâtit son Église. Moi, je vois pas comment il l'a bâti. Je vois pas comment il me forme parfois. Je sais pas ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Mais je sais qu'il règne et qu'il est bon pour moi, qu'il est miséricordieux, qu'il est amour. Et parce que j'ai ça en tête, j'ai la victoire sur ce que je suis dans la chair et sur ce qui m'arrive. Je souffre peut-être, je peux être dans l'inquiétude dans un premier temps, mais tout ce que je vis est crucifié. Moi, je suis crucifié. Ce qui fait que quelqu'un m'insulte, et alors ? Quelqu'un est contre moi, et alors ? Bien entendu que je le souhaitais pas, mais celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que je suis aimé de Dieu, je suis la prunelle de ses yeux. Je ne suis pas aimé par tout le monde, mais je suis aimé par Dieu. Que certains ne m'aiment pas, ça peut m'attrister, c'est vrai, et j'en parle à Dieu, mais j'en parle à celui qui m'aime, celui qui m'a racheté. J'ai trouvé toujours intéressant quand on étudie... en fait, il y a des personnages, il n'y en a pas énormément, mais il y a des personnages très intéressants dans l'Ancien Testament qui peuvent nous aider à comprendre comment vivre dans le monde. Ce sont des personnes qui ont vécu en dehors de la terre promise. Je pense à Joseph en Égypte, par exemple. Donc, il n'était pas égyptien, donc il n'était pas en Égypte, mais il était dans l'Égypte. Et on a aussi la même chose avec Ézéchiel, avec Daniel qui était à Babylone. Donc ces gens-là, continuer d'expérimenter la vie avec Dieu, de marcher par la foi dans un monde hostile. Et donc c'est intéressant de voir comment ils se sont comportés. Et notamment dans le livre de Daniel, nous voyons que dans les premiers chapitres du livre, il change le nom de David, de Daniel et de ses amis. Et les noms, j'avais étudié ça, j'ai pas tout en tête maintenant. Mais les noms que leur donnent les Babyloniens, ce sont des noms idolâtres. Il y en a un, c'est Dieu de la Lune, l'autre... Enfin voilà, ça, c'est lié aux idoles. Et pourtant, eux adorent le vrai Dieu. Ben, ils se sont pas offusqués pour autant. Ils ont accepté ce nouveau nom. Vous voulez nous appeler comme ça? Nous, on sait comment on s'appelle. On sait comment Dieu nous appelle. Et ce qui est intéressant, c'est que là où Daniel a désobéi aux autorités... C'est quand on lui a demandé d'adorer une statue, par exemple, ou on lui a demandé de participer à un festin alors que la viande avait été consacrée aux idoles. Là, quand c'était dans le domaine spirituel, il refusait. Parce que spirituellement, il savait qu'il avait la victoire et donc il voulait honorer sa marche avec Dieu. Et peu importe ce qui se passait dans le monde, lui, il n'était pas du monde. Et c'est pour ça qu'il acceptait même la persécution, parce qu'il savait qu'il était en Dieu. Et donc, Daniel, ou je pense aux amis de Daniel qui, à un moment donné, disent « Mais vous allez nous passer par le feu. Si on doit mourir, nous mourrons. Dieu, il fait ce qu'il veut. » C'est-à-dire que ces gens-là, n'étaient pas inquiets, ils étaient encouragés par la vérité. Et c'est ça, expérimenter la victoire. Alors, il se trouve qu'ils n'ont pas été brûlés, ils ont été gardés par la main du Seigneur, mais quand bien même ils l'auraient été, ils auraient été victorieux, parce qu'ils auraient été dans la présence du Seigneur. Les martyrs de l'histoire d'Église, les disciples, jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui souffrent dans certains pays, ils ont la victoire en réalité. Alors qu'ils ont l'air de perdre, ils perdent leur vie, ils perdent leur famille, ils perdent des fois leur bien, on leur confie sur leur bien, mais ils sont encouragés parce qu'ils sont victorieux en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens-là que nous avons la victoire. Donc que Dieu vous bénisse et nous allons poursuivre lors du prochain message. Merci.